La marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Des historiens, le thème de nos rediffusions cette semaine.
Qu'est-ce que l'histoire ? C'est un voyage dans le passé en enfilant la peau des autres pour se mettre à leur place.
L'histoire vivante de Pierre Chaunu.
Je me suis demandé pourquoi on vivait si longtemps. Et finalement, pour le moment, je me dis que c'est vrai que je trouve encore des trucs. Alors je dis tant que je trouverai des trucs, je dis dans le fond, ça c'est pas le moment de crever, puisque j'arrive encore à ajouter une petite bricole.
La marche de l'histoire sur France Inter.
Pierre Chaunu, vous êtes né le...
Ça faisait longtemps.
Vous êtes né le 17 août 1923 à Belleville, dans la Meuse. Votre père était employé... C'est moi qui sonne ici.
Ouais, mais...
Merci.
C'est la guerre de la clochette.
Votre père était employé à la SNCF. Vous êtes diplômé d'études supérieures d'histoire, agrégé d'histoire, docteur ès lettres. En 1959, maître de conférence, puis professeur titulaire à la faculté des lettres de Caen, directeur fondateur du centre de recherche d'histoire quantitative de l'université de Caen, professeur d'histoire moderne à l'université de Paris-Sorbonne depuis 70, membre de la section d'adaptation à la recherche technique et d'information économique au Conseil économique et social depuis 1976 et du Conseil scientifique du CNRS, section histoire, depuis 1980, et vous êtes membre de l'Académie des sciences morales et politiques depuis 1982. Et je dois le dire, en plus, vous avez trouvé le temps donc de faire 6 enfants.
Oui.
Et d'écrire environ, j'ai dit, à peu près une cinquantaine d'ouvrages, un ou deux près. Je ne vais pas tous les citer. Je dirais que le premier, ça a été Séville et l'Atlantique, de 1504 à 1650, et c'est en 12 volumes.
Oui.
Vous savez, Séville et l'Atlantique, il n'y a pas beaucoup de lecteurs, hein, pour vous faire d'illusions. C'est gros, mais il n'y a pas beaucoup de lecteurs.
Entre 1983, date de cette session du tribunal des flagrants délires, et sa mort, un quart de siècle plus tard, Chaunu va ajouter une vingtaine de titres à la cinquantaine que Claude Villers renonçait à citer. La quantité n'effrayait nullement Chaunu, dès lors qu'elle pouvait s'organiser en série. Il aimait peser les chiffres en millions et les années en millénaires, voire davantage. « Il ne se passe pas tant de choses importantes en 3 petits millions d'années », écrivait-il, qu'on ne puisse tenter de les dire en 300 pages. Mais à cette échelle, qu'est-ce que c'est que la vie d'un homme ? Eh bien, Chaunu pensait que pourtant rien n'était plus précieux. Le vécu sensible, venu parfois très loin, affleurait constamment dans son écriture et sa conversation. Ainsi, dans cet après-midi mémorable de France Culture en 1992, où, en compagnie de Ludovic Sellier, il tient à revenir dans sa Lorraine natale, quitte à rouvrir ses blessures.
Vous allez suivre la Meuse. Il faut suivre, en effet, c'est bien là, je crois, parce que je ne peux pas tromper, il faut qu'on suive la Meuse. Il y a 20 ans hein, que je ne suis pas venu, plus de 20 ans, 25 ans alors. Vous savez ça, 30 ans même. Voilà. Et puis nous allons passer devant la pharmacie où j'avais un ami. D'ailleurs, il y a deux choses qui m'ont détourné de Verdun. C'est la mort de cet ami et la mort de mon fils. Les deux choses se sont superposées. Voilà. Non, ne vous arrêtons pas là. Mais ici, voilà. Il n'était pas là, il était d'un peu plus loin, mais... Et ces deux morts m'ont totalement coupé de cette région. J'ai eu envie de le fuir, enfin, puis ça n'avait plus de sens. Les êtres qui m'avaient attaché ici étaient disparus. Et je vous montrerai où je suis né, mais on ne s'arrêtera pas. Vous tournez à droite. C'est la rue de la République. Voilà. Cette maison aussi qui appartenait à la famille, ces deux maisons. Et puis, vous êtes dans la rue de la République. Et je suis né au 47. Continuez. Mais vous ne vous arrêterez pas.
Dans cette région proche de Verdun et qui, dans son enfance, portait toutes les stigmates de la Première Guerre, il a été le fils de la morte. Je n'ai pas connu ma mère. Je n'ai pas pu lui apporter des fleurs, c'est cette communication rompue qui m'a fait historien. Plus tard, la disparition de l'un de ses fils qu'il évoquait le laissa inconsolable. Il ne porta plus de cravate que de noir. D'ailleurs, il s'habillait généralement en gris, un costume 3 pièces, dans le gilet l'oignon d'une montre, retenue par une chaîne, et une silhouette qui aurait pu être austère si elle n'avait été celle d'un lutteur, d'un vigoureux protestant qu'évoque ici celui qui aurait pu être un de ses adversaires, Pierre Vidal-Naquet.
J'étais assistant à Caen depuis 1956, et tout particulièrement lorsqu'il a été décidé de créer à Caen ce qu'on appelait à l'époque une maîtrise de conférence d'histoire moderne, et celui qui jouait le rôle essentiel là-dedans, c'était Jean Vidalenc. Jean Vidalenc était un contemporanéiste, c'était surtout un mangeur de curés comme on n'en fait plus. Et quelqu'un qui m'avait appris, par exemple, que le 21 janvier, il était normal et légitime de manger de la tête de veau avec du persil en l'honneur de la mort de Louis XVI. Et Vidalenc a dit « J'ai choisi Chaunu parce qu'il est protestant. » Cela voulait dire « parce qu'il n'est pas catholique ». Et c'est ainsi que Chaunu a été nommé à l'université de Caen. Moi, je suis un jeune assistant, mais en 60, il m'arrive un incident. Ayant signé le manifeste des 121, ce qui se situait à l'opposé des convictions de Chaunu, je suis suspendu. Il y a une protestation dans le cadre de l'université, et tout le monde la signe, y compris Chaunu.
Chaunu, en 68, quand il est à Caen, il organise, j'allais dire, la contre-révolution.
C'est-à-dire alors, Chaunu, en 68, c'est à ce moment-là que j'ai renoué contact avec lui, parce que j'ai appris de diverses sources qu'il était persécuté. Et j'ai écrit à Chaunu, écoutez, vous êtes persécuté, cela me choque, car je vous connais, vous estime assez pour savoir qu'il est indigne de vous persécuter, et je ne vous mets pas dans le même sac que tel professeur que je ne nommerai pas, qui avait giflé une étudiante, d'ailleurs protestante, en la traitant de sale petite juive. Après tout, pourquoi je ne nommerai pas, c'était Frédéric Deloffre. Chaunu était un homme de droite, profondément à droite, et il lui est arrivé de soutenir et de préfacer des gens qui sont non seulement des gens de droite, mais des gens d'extrême droite. Chaunu est un homme de droite avec des préjugés et des pensées de droite. C'est un homme de droite avec une pratique de professeur qui est une pratique de gauche. Et ça, tout le monde l'a constaté. Chaunu arrivait à ses cours, chargé de livres, et ces livres, il les prêtait aux étudiants. Et c'était pas le cas de beaucoup de professeurs. Et c'est un homme qui a, sur le plan des rapports entre les individus, un comportement très direct, très personnel, très chaleureux, qui m'a toujours frappé.
Avant Caen, il avait commencé sa carrière à Paris. Dès 1945, il y avait rencontré Fernand Braudel, qu'il avait préparé à l'agrégation. S'il eut un maître, ce fut lui. Braudel qui l'entraîna vers les grands espaces qu'arpentèrent les Espagnols du XVIe siècle et lui montra aussi à l'horizon la longue durée. Ceci, c'est un extrait d'un dialogue étonnant, très asymétrique entre le maître et Chaunu, pour une fois en position secondaire, inconfortable.
Je ne peux pas faire l'histoire du monde année par année, ni même décennie par décennie, ou siècle par siècle. Je suis obligé d'avoir une échelle beaucoup plus grande. Or, cette échelle... Mais il faut qu'elle soit raisonnable, cette échelle, c'est la longue durée. Alors, si vous me le permettez, j'essaierai de vous expliquer la longue durée et la façon dont je l'ai poursuivie, sans être sûr ni de l'avoir inventée, ni surtout, vraiment, de la tenir en main. Si vous observez l'histoire traditionnelle, et même l'histoire telle qu'elle s'inscrit tous les jours dans nos journaux, vous avez une série d'événements, généralement très courts. Même les événements qui font beaucoup de bruit. Pour prendre un événement qui ne soit pas dans le temps présent, la bataille de Lépante, 7 octobre 1571, dans le golfe de Corinthe, qui réunit tout de même, et c'est un effort fantastique, à peu près 100 000 combattants du côté turc et du côté chrétien, commence avec le lever du soleil et termine avant midi. Ça s'est passé avec une rapidité prodigieuse. Et cette rapidité, c'est la rapidité qui entraîne notre propre vie. Enfin, une histoire de surface est une histoire événementielle. Et sous cette histoire de surface, vous avez une histoire rythmée, qui est l'histoire cyclique, comme l'on dit, ou l'histoire de la conjoncture, l'histoire conjoncturelle. C'est une histoire avec des rythmes qui sont de 3 ans, 6 ans, 10 ans. Et l'on arrive à des mouvements beaucoup plus longs, comme le mouvement Kondratiev. Le Kondratiev, une cinquantaine d'années. Il y a beaucoup d'historiens qui n'aiment pas le mouvement circulaire, qui n'y croient pas, ou qui, avec une pudeur charmante, n'en parlent jamais. Je ne veux pas donner le nom, mais...
D'accord. Il y a quand même une belle tendance, parce que depuis 10 millions d'années, depuis que nous sommes descendus des arbres du Kenya, en dépit de tout quand même,
oui, vous croyez
on a
que...
commencé à marcher un peu plus solidement, oui, sur les pattes de derrière, qu'on s'est fait une grosse tête. Enfin, je, oui, crois quand même que ça, il y a une belle tendance.
Oui, 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 oui. Ouais,
mais, une belle montée.
Mais, si c'est
mais
comme
nous
ça,
sommes l'un et l'autre des fils des Lumières. Enfin,
si
nous
c'est comme ça que vous définissez le mouvement séculaire, nous sommes perdus.
Ah oui,
certainement perdus.
On a noté la tentative de Chaunu de s'insinuer dans le raisonnement du maître et l'échec, parce que Braudel n'appréciait peut-être pas toujours l'humour. En tout cas, au bout d'un moment, il a écarté de son entourage immédiat le couple Chaunu, l'épouse Huguette d'abord, puis Pierre, qui se retrouvèrent à Caen. Peut-être y a-t-il des hommes de gauche qui ont des comportements de droite dans l'université. Enfin, il reste que Braudel, avant le chemin de la Normandie, lui avait d'abord montré celui de l'Espagne et des Amériques. Chaunu avait construit une thèse monumentale sur le commerce espagnol, se servant avec Huguette des matériaux extraordinaires des archives de l'amirauté de Séville. Il n'abandonnera jamais l'Amérique latine, le nœud du commerce espagnol, mais il va se recentrer de plus en plus sur la Méditerranée et sur l'Europe pour leur rôle dans le monde qu'il affirme unique.
Vous avez le goût des grands raccourcis historiques. Quel a été le principal apport de l'Europe à l'histoire?
Alors de l'Europe, disons de l'Europe telle que je l'entends, dans l'Europe dans sa longue dimension. Oh ben, je crois que c'est un apport absolument prodigieux, puisque c'est, dans une certaine mesure, elle est au centre du monde depuis plus de 6000 ans, elle est au centre du monde depuis 8 ou 9000 ans, puisque c'est dans cet espace tout à fait privilégié qui se trouve entre... la Mésopotamie et la vallée du Nil, que s'est produit il y a 8 ou 9 000 ans la mutation fondamentale, c'est-à-dire ce que l'on appelle le néolithique, l'apparition de l'agriculture, et par conséquent, grâce à cette agriculture, d'un cerveau collectif d'un million d'hommes. Le cerveau millionnaire, moi je crois que l'hominisation, l'homme, c'est un million d'hommes. C'est là que s'est produit concrètement pour la première fois d'abord cette densification, le fait que c'est dans le Moyen-Orient que l'on a vu apparaître pour la première fois plus d'un million d'hommes communiquant entre eux, c'est là donc le processus agricole qui vraiment a fait l'homme, parce qu'avant qu'est-ce que c'est ça, on sait pas très bien si vous voulez, mais c'est là que le processus agricole s'est produit, c'est là que l'écriture a été pour la première fois, est apparue pour la première fois, l'écriture est apparue il y a 6000 ans en Égypte, c'est là que s'est fait en Phénicie 3000 ans plus tard, il y a 3000 ans que s'est fait l'apparition de l'alphabétisation. Et par conséquent, on s'aperçoit que il y a une avance de cet espace culturel par rapport à tous les autres. Même la Chine, qui vient immédiatement après, la Chine, quant à l'agriculture, quant à l'écriture, si on prend tous les grands repères, la multiplication du nombre, la Chine a à peu près 2 à 3 000 ans de décalage par rapport à, disons, à la souche dont nous sommes issus.
On est quand même un peu surpris lorsqu'on lit votre livre, parce qu'il y a des choses qu'on entend, qu'on avait perdu l'habitude d'entendre. Par exemple... celle-ci, le monde plein européen qui a dominé 6 siècles d'une riche durée, du 12e, 13e au 18e, début 19e, s'est approché dans plus d'un secteur d'un point presque absolu de quasi-perfection.
Oui. Oui, c'est pas...
Vous n'allez pas un peu loin, là.
Ah, vous savez que finalement, l'Europe, telle que nous la vivons, dans laquelle nous sommes, est issue de cette grande chrétienté latine. Et cette chrétienté est apparue vers le 12e, 13e siècle, après une grande mutation du nombre des hommes. C'est alors que pour la première fois, on a vu apparaître sur 2 millions à peu près de kilomètres carrés, cette densité absolument fatidique, cette densité qui va permettre toutes les performances ultérieures, que sont les 40 habitants au kilomètre carré d'hommes communicant entre eux. Et il y a eu à ce moment-là un phénomène que j'appelle un phénomène de monde plein, parce que dans les techniques de l'époque, il était vraiment difficile de concevoir que l'on pût faire vivre en moyenne beaucoup plus de 40 ou 50 habitants au kilomètre carré. Et alors là, vous avez une décélération démographique qui s'est produite avec un procédé d'une rare élégance qui est le retard de l'âge au mariage. Or, le retard de l'âge au mariage a été... En fait, l'Europe s'est faite sur le retard de l'âge au mariage. L'Europe chrétienne s'est faite sur le retard de l'âge au mariage, qui a été la socialisation d'un recours jusque-là aristocratique, sa socialisation, sa diffusion dans l'ensemble du corps social.
C'est-à-dire que pour vous, l'abstinence est liée à la créativité ?
Ah, oh, ben, évidemment. Enfin, du moins, si vous voulez, il est absolument certain que, enfin, qu'un certain contrôle de soi. Écoutez, l'homme ne peut pas tirer. L'homme a des possibilités qui sont des possibilités énormes. Le cerveau humain a des possibilités qui sont des possibilités, je dirais, effroyables et dont une partie encore, à peine, si vous voulez, a été effleurée. Mais ces possibilités, l'homme ne peut les sortir de lui-même qu'à condition qu'il y ait une prise du cortex sur l'ensemble de l'être. Et je crois que entre autres, d'ailleurs, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est Freud et quelques autres avec plus de talent. Il est incontestable que le contrôle des pulsions sexuelles a été certainement un élément extrêmement important dans la transformation de l'homme européen.
Allez, un entretien de Pierre Chaugneux avec Jacques Pogam, c'était en 1975. C'est le moment de dédier à ce protestant baroque une cantate on ne peut plus classique, BWV 170, Jean-Sébastien Bach, témoin d'une famille riche.
Die Welt, das Sündenhaus, nicht nur in Höllenlieder aus, und sucht durch Hass und Neid des Satans Bild an sich zu tragen. Ihr Mund ist volle Ottergift, der auch die Unschuld tödlich trifft und will allein von Rache, Rache sagen.
Jean-Sébastien Bach, vous savez, le miracle de la Saxe et de la Thuringe, c'est le miracle d'un peuple dont tous les enfants ont reçu une culture musicale. C'est sans les cantors tous les gosses de l'Allemagne de l'Est, de l'Allemagne luthérienne apprennent la musique, apprennent à chanter, apprennent le choral. Alors naturellement, il y a des Bach et des Mozart, si vous voulez, ensuite on lui dit qui poussent. Mais sans des hommes nombreux et sans des hommes éduqués, vous savez, tous les génies, il y a d'une part, on ne peut rien faire si vous n'avez pas des hommes, des hommes plus doués que d'autres et qui émergent. Mais d'un autre côté, ces hommes ne peuvent émerger qu'à condition que vous ayez des sociétés nombreuses où l'éducation est largement rediffusée.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
L'histoire vivante de Pierre Chaugneux 10 ans après sa mort et au moment d'un colloque qui se termine aujourd'hui au mémorial de la paix de Caen et qui lui est consacré. Chaugneux, on l'entend, il aime les mondes pleins. Il est très marqué par mai 68 dont il déteste tous les aspects. Et il va, dans les années 1970, essayer de démontrer par tous les moyens que l'Europe a choisi de rompre avec la fécondité. C'est, dit-il, une véritable peste blanche qui s'abat sur nous, comme il y avait eu au XIVe siècle une peste noire. Une peste blanche qui va priver l'arbre de ses fruits, puis le faire sécher sur pied. Alors pour les uns, Chaugneux va apparaître comme le chevau léger de la démographie historique, et pour les autres, peut-être plus nombreux, un âne batté chargé de chiffres illisibles.
Pour vous, Pierre Chaugneux, pour l'historien que vous êtes, la baisse de la natalité, au contraire, c'est une véritable catastrophe. Vous ne cachez ni votre inquiétude, ni votre colère. Pourquoi ?
Eh bien, écoutez, mon inquiétude, elle tient dans les chiffres. En 1974 et en 1975, 6 millions de naissances ont manqué aux États-Unis, au Canada et en Europe occidentale, simplement pour que la génération soit remplacée. Alors, pendant un certain temps, les Français se sont gargarisés de fausses sécurités. Ils ont pensé que ce phénomène qui touchait le monde occidental ne les toucherait pas. Or, vous savez par exemple que pour que la génération soit remplacée, il faut qu'il y ait en moyenne 2,2 enfants par femme, c'est le minimum. Et vous savez qu'à l'heure actuelle, au mois de mars, nous sommes à peu près vers 1,7, 1,6. Si nous continuions sur cette ligne, nous nous trouverions dans 10 ou 15 ans dans une situation véritablement apocalyptique. Jamais au cours de l'histoire, nous n'avons observé une chute aussi importante. Or, comme par hasard, cette chute de la natalité, en fait, accompagne un phénomène de scandaleuse régression sociale. De 1946 à 1950, en France, par exemple,
on peut dire que la collectivité avait pris à peu près à son compte 50% du coût des enfants. Les quelques mesures qui ont été annoncées il y a quelques jours ne sont même pas susceptibles d'arrêter la dégringolade. Alors je suis en colère, si vous voulez, particulièrement contre cette régression sociale. Et je voudrais bien que l'on me montre au nom de quelle justice, si vous voulez, au nom de quelle équité, on laisse se creuser chaque jour cette scandaleuse inégalité qui fait que les gens, que les ménages sont d'autant plus punis qu'ils assurent leur retransmission de la vie.
Nous aurons, si vous voulez, nous aurons absolument à payer cette extraordinaire destruction de la vie. Le phénomène, ce que nous avons fait, à l'heure actuelle, le creux que nous avons fabriqué au pied de la pyramide des âges est beaucoup plus important que le creux qu'avait creusé la guerre de 14-18 ou la guerre de 1939-45.
Plusieurs milliers de personnes ont manifesté cet après-midi à Paris pour protester contre l'avortement et contre son remboursement par la Sécurité sociale. Un remboursement partiel, 70%, qui doit entrer en vigueur dès l'automne prochain. Au même moment, cet après-midi, manifestation parallèle du MLAC, le mouvement pour la libération de l'avortement et de la contraception. Le MLAC demande, lui, le remboursement intégral de l'IVG.
En mettant en place le remboursement de l'avortement par la Sécurité sociale, le ministère des Droits de la Femme veut rendre l'IVG accessible à toutes les femmes qui le désirent, quelle que soit leur situation financière. Mais pour les adversaires de l'avortement, c'est une manière intolérable de légaliser cette pratique.
Rembourser la mort, aucun sens. L'acte que le gouvernement s'apprête à prendre est véritablement la fin de l'état de droit. À partir de ce moment-là, si véritablement il franchit cette barre, cette espèce de bande jaune, je considérerai à partir de ce moment-là que nous ne sommes plus dans un état de droit. César est devenu un tyran. C'est quelque chose d'absolument fondamental. C'est le même procédé que le décret de Dioclétien, c'est le même procédé que la révocation d'Edwin Nantes, c'est une atteinte à la liberté de conscience. Et c'est pourquoi je suis aujourd'hui dans la rue, et ça m'arrive une fois tous les 13 ou 14 ans.
Quoi qu'on pense, le ton et les citations dans les interventions de Chaudu dans les manifestations anti-IVG n'appartenaient qu'à lui. Quand, en 1988, à la demande de Jacques Chirac, Premier ministre, Bernard Stasi compose une commission sur la réforme du Code de la nationalité et qu'il y installe un rôle clé, Pierre Chaunu, la gauche s'alarme. Chaunu va encore jouer le rôle de Cassandre, prédire la décadence d'une France qui tournerait le dos à la chrétienté de ses origines. Mais Chaunu va être surpris par les réalités qu'il découvre et à l'arrivée, il surprendra une fois encore.
Je dirais, si nous voulons que la France subsiste, il faut que nous ayons des enfants en France. Que d'autre part, nous ne pouvons pas évidemment recevoir l'univers entier. Donc il faut que nous contrôlions nos entrées. Et que quant aux gens qui sont chez nous, et qu'il faut bien dire que pour la plupart d'entre eux, nous les avons fait venir. Et particulièrement pour les enfants qui sont nés en France, bien évident qu'ils n'ont pas d'autre patrie que la nôtre. Alors, il faut aider. Alors, je ne dirais peut-être pas forcément leur assimilation, parce que le mot est un petit peu trop brutal, leur intégration.
L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Pierre Chaunu est d'abord un converti, et la conversion est une migration. Un dernier extrait de son émission avec Ludovic Cellier.
J'ai recensé tous les qualificatifs dont on vous affuble. Ouais. Alors vous êtes, pour les uns, le Claudel de l'histoire.
Oh là là.
Pour les autres, le Peggy de l'histoire. Pour d'autres, vous êtes le Pasteur de l'histoire. Visiblement, Pasteur est un de vos modèles. Vous auriez aimé être biologiste, alors donc Pasteur, vous êtes le Pasteur de l'histoire. Puis alors pour d'autres, vous êtes carrément un vieux réac, nataliste et intégriste. Vous préférez laquelle des définitions dans toutes celles-là?
Bon, alors réactionnaire, bon, ça doit être vrai, parce que je réagis quelquefois vigoureusement. Alors si être réactionnaire, c'est réagir, oui, c'est vrai. Dans ma jeunesse, je réagissais, continue à réagir. Oui, mais je suis un réactionnaire dans le mouvement aussi. C'est-à-dire que il m'arrive aussi de réagir vigoureusement contre, je ne dirais pas contre le conservatisme qui tue, mais il y a des formes de conservatisme qui tuent. Parce que finalement, moi je suis pour la vie. Donc je suis pour le mouvement. Mais dans toute la mesure du possible, je suis pour le mouvement raisonnable, le mouvement contrôlé. Parce que vous savez, quand le mouvement va trop vite, il n'avance pas, il tourbillonne. Ça fait des tourbillons, il attaque les berges. J'aime bien les fleuves qui coulent.
Réformiste plus que révolutionnaire.
C'est ça, oui, oui. Oh, je suis un réformateur, un réformiste, je suis partisan du mouvement. Et il est certain que les gens qui bloquent le mouvement provoquent ensuite l'explosion. Donc, c'est vrai que je me définis, je peux réagir, mais je me définis en politique comme un conservateur libéral, ou un libéral conservateur. Les deux choses, d'ailleurs, à mon avis, sont ensemble. C'est-à-dire que la valeur quand même fondamentale, c'est la valeur de la liberté, parce que la liberté, c'est la dignité de l'être, parce que c'est la personne. Et que bien évidemment, d'ailleurs, écoutez, je veux dire que nous avons tellement vu autour de nous la vérité de la formule « small is beautiful ». Les gros machins, c'est les trucs qui ne marchent pas, qui explosent, qui ne fonctionnent pas. Le principe de subsidiarité, c'est fondamental. Une société qui fonctionne, c'est une société qui permet au maximum de liberté de s'exprimer. Mais, encore une fois, pour que un maximum de liberté s'exprime, il faut bien évidemment qu'elle ne s'agresse pas. C'est-à-dire qu'il faut pour qu'une société réalise ce maximum de liberté, il faut qu'il y ait un minimum d'harmonie. Parce que sinon, bien évidemment, c'est le tourbillon. Pour que le fleuve coule vite, rapidement, il faut précisément, il faut pas que ces libertés s'agressent. Donc, il n'y a pas naturellement de liberté sans un minimum de lois, sans un minimum de règles. C'est pourquoi je suis un libéral, mais conservateur. Je comprends la nécessité du pouvoir, je comprends la nécessité de l'ordre, mais je n'aime pas l'abus de pouvoir. Et c'est vrai que j'ai senti, à certains égards, l'abus de pouvoir. Je pense que maintenant, d'autres personnes le sentent comme moi.
Et vous n'en avez jamais abusé, vous, du pouvoir ?
Je ne crois pas.
En tout cas, très modestement, chaque dimanche, il prêchait dans le petit temple, Small is Beautiful, de Courseulles-sur-Mer, dans le Calvados.
Et maintenant, mes frères, je vous demande de vous lever afin de recevoir de la part de Dieu l'exhortation et la bénédiction. Et une fois de plus, j'emprunterai cette exhortation et cette bénédiction à l'apôtre Paul. Soyez toujours joyeux, c'est un ordre. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui nous a appelés est fidèle et c'est lui qui le fera.
L'historien est un peu prophète, mais pas au sens de celui qui prédit l'avenir. Il serait alors tenté de prévoir le pire. Non, au sens de qui interprète les signes au sein de l'histoire en train de se faire. Les signes d'espérance et de paix. Le mot « paix », c'était très important pour Chaunu. Son dernier livre y est d'ailleurs consacré. L'émission a été préparée par Frédéric Martin et Franck Olivard, à la technique Philippe Duclos, à la réalisation Audrey Ripouille.